Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump menace de déployer l'armée pour rétablir l'ordre aux États-Unis. Bible à la main, il l'a dénoncé hier des actes de terrorisme intérieur alors que des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales exacerbées par la crise sanitaire.
L'épidémie de Covid-19 menace de faire s'effondrer les systèmes hospitaliers d'Amérique latine. 1 millier de morts par jour au Brésil. Nous serons sur place dans ce journal.
Alors que la France, elle, amorce aujourd'hui un quasi-retour à la normale, finie l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi, et réouverture des parcs et jardins, des plages, des terrasses, un café au goût de liberté, encore quelques contraintes tout de même pour les bars-restaurants en cette phase 2 du déconfinement.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, The Lancet et la chloroquine. Comment estimer la valeur scientifique d'une étude? On posera la question à une épidémiologiste, Catherine Hill.
Il utilise l'armée américaine contre les Américains. Il envoie du gaz lacrymogène contre des manifestants pacifiques et tire des balles en caoutchouc. Tout cela pour une photo. C'est l'accusation portée par le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, après la visite surprise de Donald Trump dans une église emblématique de Washington. Une semaine après la mort à Minneapolis de George Floyd, un homme noir de 46 ans interpellé par un policier blanc, Washington, New York, Los Angeles et une vingtaine d'autres villes aux États-Unis ont décrété des couvre-feux, encore insuffisants pour Donald Trump qui menace donc de déployer l'armée. Une courte allocution suivie hier par Gregory Phillips alors que les abords de la Maison-Blanche étaient saturés de gaz lacrymogène.
La Maison-Blanche annonce une déclaration officielle du président. Et quasi simultanément, la police disperse à grands coups de gaz lacrymogène les centaines de manifestants qui pacifiquement protestaient devant le bâtiment présidentiel. Panique dans la foule. En quelques minutes, les abords du Square Lafayette sont vidés et Trump débute son intervention depuis la roseraie à l'entrée du bureau ovale.
I am your president of law and order.
Au loin, on entend retentir les grenades des forces de l'ordre. Puis le président quitte la Maison Blanche à pied, ce qu'il ne fait jamais, entouré par ses gardes du corps pour traverser ce Square Lafayette et marcher jusqu'à l'église Saint-John, à quelques dizaines de mètres. La veille au soir, des casseurs ont tenté d'incendier l'édifice religieux, surnommé l'église des présidents, tant elle est proche du 1600 Pennsylvania Avenue. Là, Donald Trump prend une Bible à la main et l'attend aux caméras, l'air triomphal. La scène est diffusée en direct sur les chaînes d'information. Mais l'évêque du diocèse de Washington, Marianne Budd, n'a pas été prévenue de l'opération de com' du président. Je suis furieuse, dit-elle sur CNN, et je me demande bien à quoi l'on vient d'assister. Trump repart, le message est clair, il veut être le président de la loi, de l'ordre et de la Bible.
Tandis que Donald Trump menaçait depuis Washington d'envoyer l'armée, le centre de Manhattan a lui été le théâtre de pillages hier, tout comme à Hollywood, sur la côte ouest, cette fois des États-Unis, où la garde nationale est déjà déployée et le couvre-feu à Santa Monica, par exemple, transforme cette destination touristique en ville fantôme, Loïc Piala.
L'image évoque ces films catastrophes qu'Hollywood produit à la chaîne. Des soldats de la garde nationale, armes à la main, ont pris place devant la jetée de Santa Monica, l'une des principales attractions touristiques de Los Angeles. À leur côté, des Humvees, ces énormes 4x4 militaires. Pas de circulation sur Ocean Boulevard qui domine le Pacifique. Presque pas de piétons dans ce quartier d'habitude si fréquenté. Quelques sans-abri, des touristes égarés qui n'ont pas reçu l'alerte du couvre-feu sur leur téléphone et des résidents curieux. Pendant qu'un hélicoptère survole la zone, les policiers en voiture de patrouille ou positionnés à chaque carrefour rappellent patiemment aux badauds qu'il est temps de rentrer chez eux où ils seront arrêtés. Les seuls civils autorisés sur place sont ces hommes en train de finir d'installer des planches de bois sur les vitrines pour éviter de nouveaux pillages ou pour remplacer les vitrines brisées la veille.
Loïc Piala à Santa Monica pour France Culture. Les États-Unis qui comptent par ailleurs près d'1 810 000 cas de Covid-19, plus de 105 000 morts dans ce pays qui est le plus touché au monde en valeur absolue, suit après le Royaume-Uni, pays le plus touché en termes de surmortalité par rapporté à la population, le Royaume-Uni où les écoles ont commencé à rouvrir hier. Alors que le pic de l'épidémie de Covid-19 a été atteint en Europe, c'est aujourd'hui en Amérique latine que la propagation est est la plus forte. Le Brésil est devenu l'épicentre de la pandémie, avec en moyenne 1 millier de morts par jour, 500 000 de personnes au total contaminées. Mais les chiffres pourraient être sous-estimés. Le cimetière de Villa Formosa, le plus grand cimetière d'Amérique latine dans la banlieue de Sao Paulo, doit faire face à une augmentation de 70% de son activité depuis l'arrivée du virus. Le reportage de notre envoyé spécial Olivier Poujade.
James ne marque aucune pause, il retourne la terre fraîche et creuse inlassablement avec précision de petites tranchées dans l'ocre rouge du cimetière.
On sait que quelqu'un finira par occuper cette tombe. On devra en creuser combien demain ? 50 aujourd'hui. Demain, ce sera 70, 80, 100 ? Donc oui, ça nous inquiète. Derrière tout ça, ce sont des familles qui sont détruites.
Chaque victime du Covid est identifiée par l'administration. D3, c'est le code qui apparaît sur le sac plastique qui enveloppe le corps. Pas de veillée funèbre, les enterrements ne durent pas plus de 5 minutes. En 22 ans de service, Edilson n'avait jamais vu ça.
On ne peut pas être sensible à la douleur des familles. Si tu enterres 80 personnes et que tu te laisses déborder par leurs émotions, tu ne peux plus travailler. Il faut garder son sang-froid et faire son travail, c'est une routine.
Cette routine effraie de plus en plus les fossoyeurs de Villa Formosa. Tous le reconnaissent, mais Zeca ne veut surtout pas dévier de son objectif.
Chaque corps aura sa propre tombe, un enterrement digne. Vous avez sûrement vu qu'ailleurs au Brésil, dans le Mato Grosso, ils ont été débordés et ils ont dû ouvrir des fosses communes. Ici, on essaye d'anticiper ça.
Se préparer chaque jour à ensevelir de plus en plus de victimes du Covid pendant que le président Bolsonaro continue de prendre ses bains de foule.
Olivier Poujade, envoyé spécial de France Culture au Brésil avec Arthur Gerbeau à la technique.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. En France, de nombreux interdits tombent alors que nous entrons dans la phase 2 du déconfinement.
Dès aujourd'hui, l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi est levée sur l'ensemble du territoire. Il est ainsi permis de prendre l'avion ou le train à condition de porter un masque. Les parcs et jardins ainsi que les forêts sont ouverts dans toute la France, tout comme les plages, lacs et centres nautiques. Le préfet peut y imposer le port du masque. Les musées, monuments et parcs zoologiques peuvent également rouvrir avec masques obligatoires, des masques de rigueur encore dans les théâtres qui peuvent rouvrir en zone verte en respectant également des règles de distanciation physique. Les bars, cafés et restaurants peuvent rouvrir aujourd'hui en zone verte toujours en respectant certaines règles, 10 personnes maximum par exemple par table, 1 mètre entre chaque groupe. Et puis dans les zones oranges, seules les terrasses et les espaces ouverts peuvent rouvrir, une contrainte plus ou moins bien acceptée dans les commerces parisiens. Antoine Marette.
À la sortie du Forum des Halles, difficile de ne pas remarquer le Père Tranquille. Cette brasserie profite d'une rue piétonne très passante pour déployer en temps normal sa terrasse de 230 places. Après une mise en sommeil de plus de 11 semaines, c'est donc le grand jour pour le gérant Damien Revel.
Là, on va avoir 189 places. J'ai eu l'autorisation de dépasser un petit peu. Comme on est dans une rue piétonne, nous, c'est pas trop dérangeant, il suffit qu'il y ait un passage pour les camions de secours des pompiers, la police, on a dépassé de 1m25. S'il fait beau, c'est pas grave, mais s'il se met à pleuvoir, comme ils annoncent du mauvais temps dans la semaine prochaine, ben ça va nous réduire carrément la terrasse, oui, c'est sûr.
À quelques centaines de mètres de là, changement d'ambiance à l'énigme. Ce bar-restaurant propose une cuisine familiale. La rue Quincampoix, très étroite, ne lui permet de disposer que de 2 tables à l'extérieur en temps normal. C'est trop peu pour permettre à son gérant Gilles de lever le rideau ce mardi.
Le trottoir est quand même petit, donc en fait on aurait 5-6 tables d'extérieur, donc ça ferait on va dire 10 personnes. Donc, du coup, c'est relativement peu par rapport à ce qu'on doit rentrer tous les jours pour être rentable. On n'a pas le bar, en fait nous on est bar-restaurant, donc nous comme on est petit, en fait on gagne plus d'argent sur l'alcool et c'est le bar qui nous rapporte plus. Le restaurant nous rapporte, mais c'est surtout le bar qui fait tourner l'entreprise.
Gilles espère rouvrir son bar-restaurant début juillet, à une condition qu'il n'y ait plus de distanciation sociale, faute de quoi l'énigme ne pourra toujours pas être rentable.
Et les conditions de confinement dans les EHPAD sont à nouveau assouplies à partir de vendredi, avec un élargissement des conditions de visite. Seront désormais permises les visites de plus de 2 personnes hors chambre. C'est l'heure des dernières manœuvres avant le bouclage. Les candidats au second tour des municipales du 28 juin prochain ont jusqu'à 18h ce soir pour déposer leur liste, avant le lancement d'une campagne inédite à l'heure du coronavirus. Y aura-t-il un accord d'accord entre la maire socialiste sortante de Paris, Anne Hidalgo, et les écologistes emmenés par David Béliard. Oui, selon les informations du service politique de France Info, un accord prévoit de réserver un peu plus de 20 postes de conseillers de Paris aux écologistes et une éventuelle mairie d'arrondissement. Le quatrième cycle de pourparlers entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour tenter de trouver un accord commercial post-Brexit reprennent ce matin. Les deux parties ont jusqu'à la fin du mois pour aboutir sur un accord. Boris Johnson a annoncé qu'il participerait personnellement aux discussions par vidéoconférence. Covid-19 oblige, mais le Premier ministre britannique, qui a toujours clamé haut et fort qu'il était prêt à sortir de l'Union européenne sans accord, ne semble pas plus inquiet que cela d'une fin de la période de transition le 31 décembre prochain. Pour rappel, toute prolongation de cette période doit être demandée par Londres avant le 1er juillet, dans moins de 30 jours donc. Les précisions à Londres d'Otsoufi.
Boris Johnson a été élu sur un slogan « Mettre en œuvre le Brexit » et ce n'est pas un no deal qui l'arrêtera. Il va donc participer aux négociations avec Bruxelles, mais le gouvernement affiche une certaine indifférence quant à l'échec possible de ces pourparlers. Les avertissements de Michel Barnier dans la presse britannique ce week-end, rappelant que le temps est compté pour trouver un accord commercial, semblent avoir peu d'impact. Pour David Frost, le négociateur anglais, pas question de prolonger la période de transition. Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a écrit hier au gouvernement pour demander une extension. La dernière chose dont le Royaume-Uni a besoin pendant cette crise du coronavirus, c'est plus de chaos et d'incertitude, insiste celui qui s'est toujours opposé au Brexit. Mais de plus en plus d'observateurs ici estiment que Boris Johnson voit au contraire cette pandémie comme une parfaite distraction. Dans ce pays, le deuxième au monde le plus touché par le virus, l'opinion publique secouée, les acteurs économiques fragilisés remarqueraient à peine le choc d'un Brexit sans accord.
Aude Soufi à Londres pour France Culture. Quelques mots du temps de ce mardi 2 juin, encore calme et ensoleillé dans le nord du pays, alors que des nuages et des averses vont dominer dans la moitié sud. Les températures sont comprises ce matin entre 9 et 15 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, comptez de 12 à 18 au sud. Et puis au meilleur de la journée, il fera entre 24 et 29 degrés sur l'ensemble du territoire.